Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, ravis de vous retrouver en ce dimanche 24 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. L'Irak, un carnage qui porte cette signature US. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce journal, l'Iran n'est pas intéressé à un contact direct avec l'administration Biden, réaffirme Téhéran. Au moins 11 membres des unités de mobilisation populaire irakienne ont été tués dans une attaque terroriste dans la province centrale de Salaheddin. Et puis, 3 civils ont été tués et 7 autres blessés lors d'une attaque d'artillerie près de la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Reste avec nous. L'Iran n'est pas intéressé, je vous le disais en titre, à un contact direct avec l'administration Biden, réaffirme Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a exclu toute renégociation de l'accord nucléaire, également connu sous le nom du Plan Global d'Action Commun PGAC ou GCPOA selon son acronyme anglais. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'il n'y aurait pas de GCPOA+, ni un nouvel accord et ni de nouvelles discussions sur l'accord 2015. Le diplomate note qu'au Téhéran n'avait aucun intérêt pour un contact direct avec Washington. Abbas Araghchi a ajouté que la République islamique pensait que le PGAC était en soi un bon cadre de dialogue. Le responsable iranien a déclaré que la nouvelle administration américaine devrait compenser les erreurs de la précédente et revenir à l'accord nucléaire et lever les sanctions dans les plus brefs délais. L'ancien président américain Donald Trump s'est retiré de l'accord multilatéral nucléaire en 2018, malgré l'opposition des autres signataires. Il a réimposé et imposé des sanctions contre l'Iran dans le cadre d'un soi-disant politique de la pression maximale. Au moins 11 membres des unités de mobilisation populaire irakiennes ont été tués dans une attaque terroriste dans la province centrale de Salaheddin. Les sources de sécurité affirment que 10 autres personnes ont été blessées dans l'attaque qu'elles ont imputée aux terroristes Daesh. Les assaillants ont utilisé des armes légères, profitant de l'obscurité pour tendre une embuscade à la 22e brigade des Hasht à l'est de la ville de Tikrit. L'attaque intervient 2 jours après que les terroristes ont tué 32 personnes dans un double attentat suicide dans la capitale Bagdad. De fait, les attaques de Daesh ces derniers mois ont majoritairement eu lieu dans les provinces de Salaheddin et de Kirkouk, où s'engouffrent les terroristes. 17 personnes, majoritairement des militaires, ont par exemple été tuées en novembre dans des attaques de Daesh au nord de Bagdad. Daesh a lancé une campagne de terreur en Irak en 2014, envahissant de vastes étendues du pays. Bagdad a déclaré la victoire sur les terroristes en 2017, à la suite d'une intense campagne militaire dans laquelle les Hashd al-Shaabi ont joué un rôle crucial. Autre thème dans l'actualité, 3 civils ont été tués et 7 autres blessés lors d'une attaque d'artillerie près de la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie. Une femme et 2 enfants ont été tués dans les bombardements perpétrés par les forces militaires turques et leurs mercenaires terroristes. Les régions ciblées sont contrôlées par des combattants kurdes. Des terroristes soutenus par la Turquie ont mené des attaques similaires sur la région dans le passé. Du 20 au 19 décembre, 11 civils, dont 8 enfants, ont été tués par des tirs de mortier des extrémistes terroristes. Accord nucléaire, le chef du Mossad rencontrera Joe Biden le mois prochain pour souffler à l'oreille du nouveau président américain contre l'Iran. Le chef des espions d'Israël se rendra à Washington dans les prochaines semaines pour faire connaître les demandes du régime à l'administration du nouveau président américain Joe Biden sur l'accord nucléaire iranien. Le chef du Mossad, Yossi Cohen, pousserait Biden à changer radicalement l'accord en 2015 s'il devait le rejoindre un jour. Le rapport indique qu'Israël veut mettre un terme à l'enrichissement d'uranium et à la production de centrifugeuses avancée par l'Iran, ainsi qu'aux délimitations du rôle régional de l'Iran. Cohen sera le premier haut responsable israélien à se rendre à Washington après la prise de fonction de Biden jeudi dernier. L'Iran dit qu'il ne renégociera pas l'accord nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a également averti que Biden perdrait l'opportunité de sauver l'accord s'il insistait pour arracher de nouvelles concessions à l'Iran. Autre thème, nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine. L'administration Biden réaffirme son engagement à approfondir ses relations avec Taïwan. Les États-Unis ont réaffirmé leurs engagements à approfondir leurs relations avec Taïwan dans un contexte de tensions croissantes entre l'île autonome et la Chine. Le département d'État américain a déclaré par la voix de son porte-parole que Washington continuerait d'aider Taipei à maintenir une capacité d'autodéfense suffisante. Le porte-parole du département américain, Ned Price, a également exhorté la Chine à cesser de faire pression sur Taïwan et à engager plutôt un dialogue constructif avec les responsables taïwanais. Les déclarations sont intervenues après que Taïwan eut déclaré que des bombardiers chinois sont entrés dans sa zone d'identification de défense aérienne. Pékin critique l'approfondissement des liens de Washington avec l'île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Pékin a demandé à maintes reprises à Washington de respecter la politique d'une seule Chine et de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. Nicolas Maduro appelle les États-Unis de Biden à tourner la page avec le Venezuela. Le président vénézuélien se dit prêt à tourner la page avec les États-Unis sous le nouveau président Joe Biden après des années de tensions avec la précédente administration américaine. Nicolas Maduro a appelé à une nouvelle page dans les relations de son pays avec Washington, basée sur le respect mutuel, le dialogue, la communication et la compréhension. L'administration Trump avait imposé de nombreuses séries de sanctions contre le Venezuela, y compris un embargo sur le pétrole en 2019, dans le but de renverser le gouvernement légitime de Maduro. Enfin, le Maroc va acquérir des systèmes de défense aérienne américains Patriot. Ces derniers mois, le Maroc a acquis, ou est en passe de le faire, plusieurs équipements militaires majeurs auprès des États-Unis, dont 80 avions de combat F-16 Viper, dont 25 exemplaires neufs, et la modernisation de 23 autres F-16 déjà en dotation, 24 hélicoptères Apache ainsi que 4 drones moyenne altitude et longue endurance. Ces commandes ont été passées via le dispositif FMS, vente militaire à l'étranger, ce qui fait qu'elles ont fait l'objet d'une recommandation au Congrès des États-Unis émise par l'Agence de coopération en matière de sécurité et de défense, l'agence chargée des exportations d'équipements militaires américains. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Irak, un carnage qui porte cette signature, US. La coïncidence du double attentat suicide qui a secoué la capitale irakienne Bagdad jeudi 21 janvier avec le deuxième jour de la prise de fonction de Joe Biden à la Maison-Blanche porte de forts messages. Loin d'être un hasard, le choix de Bagdad comme cible avait pour objectif d'attirer une couverture médiatique de grande envergure qui n'échapperait à aucune des parties impliquées dans les enjeux en Irak. Revendiqué par le groupe terroriste Daesh, le double attentat suicide constitue un avertissement s'adressant en premier lieu au gouvernement irakien pour rappeler à ce dernier sa mission de saper les succès des Hashd al-Shaabi, à anéantir Daesh et leurs efforts pour éliminer les résidus du groupe terroriste en Irak. D'autant que le gouvernement irakien est directement responsable du maintien de la sécurité en Irak. Soit vous limitez l'influence de la République islamique et les activités des Hashd al-Shaabi en Irak, soit nous transformons l'ensemble de l'Irak en un enfer pour vous. Tel est le message du double attentat suicide, sans par ailleurs tenir compte de la détermination d'un premier ministre irakien qui n'entendrait pas à quitter le pouvoir à l'approche de la campagne électorale. Stipendier les kamikazes de nationalité saoudienne pour mener le crime n'est pas un hasard non plus, révélant l'implication des États-Unis dans cet attentat le plus meurtrier depuis plus de 3 ans. Le choix des ressortissants saoudiens appelle le prince héritier Mohammed bin Salman à se soumettre au dictat de la nouvelle administration américaine, tout en le punissant pour avoir soutenu Trump. Et le pauvre Ben Salman, qui avait désespérément besoin d'améliorer son image auprès des Irakiens afin d'avoir une part d'investissement et de projets économiques pour vaincre ce qu'il appelle l'influence de l'Iran en Irak. Cherchant à rassurer les sionistes qu'ils ne ménageraient sur aucun effort pour saper la stabilité et l'insécurité de la région et des capitales de l'axe de la résistance, même en cas d'un retour à l'accord sur le nucléaire iranien, Biden a mis toute cette race dans le double attentat suicide ayant coûté la vie à des dizaines de citoyens irakiens. Concentré sur l'amélioration de la situation interne et la restauration de l'unité du peuple américain, une notion déchirée dans les liens et la solidarité avait commencé à se détisser. Le discours d'investiture du nouveau président américain a laissé croire que les démocrates sont de retour dans des guerres par procuration. Concentré sur l'amélioration de la situation interne et la restauration de l'unité du peuple américain, une nation déchirée dont les liens et la solidarité avaient commencé à se détisser, le discours d'investiture du nouveau président américain a laissé croire que les démocrates sont de retour dans des guerres par procuration. Les explosions seraient aussi une tentative visant à empêcher la tenue des élections anticipées en Irak qu'en prévu. En effet, les partis pro-américains ne sont pas encore capables de rivaliser avec les anciens partis politiques en termes d'organisation et de capacité politique. Les explosions leur faisant donc gagner du temps pour se préparer aux prochaines élections. Au bout du compte, les attentats du terroriste en Irak servent d'excuse aux Américains qui entendent maintenir leur présence dans le pays à tout prix, et ce pour la joie des États riverains du Golfe Persique et leurs alliés sionistes. Produit dans un marché bondé au premier anniversaire de l'assassinat des hauts commandants de la résistance, le double attentat suicide met au défi tous ceux qui réclament le retrait des troupes US d'Irak.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. C'était en novembre 2015 et suite aux événements terroristes est survenu en France, que le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a envoyé une lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, des jeunes occidentaux. Dans sa lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, l'honorable Ayatollah Khomeini a souligné « Je vous demande de jeter à l'appui d'une juste conception et d'une vision profonde et en référence à des expériences amères, les bases d'une interaction juste et loyale avec le monde de l'islam. » Et l'honorable Ayatollah Khomeini, dans sa lettre à l'adresse en fait des jeunes d'Europe, a fait allusion à ces actes de terroristes dont font l'objet, par exemple, les peuples, que ce soit en France, en Irak, au Liban, en Syrie. Il a en fait de souligner toujours dans sa lettre « Je suis persuadé que seul vous, les jeunes, vous avez la capacité de tirer des leçons des événements désagréables de ces derniers jours. » Bien sûr, là, l'honorable Ayatollah Khomeini fait référence aux des événements terroristes survenus en France en 2015 afin de trouver de nouvelles voie pour bâtir l'avenir et d'empêcher les déviations qui ont conduit l'Occident à sa situation actuelle. Et toujours dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khomeini a précisé aujourd'hui, personne n'ignore le rôle des États-Unis dans la formation, le renforcement et l'armement d'Al-Qaïda. Ce groupe terroriste, les protecteurs révélés et bien connus du terrorisme Takfiri, sont constamment sur la liste des alliés de l'Occident et ce, en dépit de leur régime politique les plus arriérés qui répriment cruellement les idées les plus avancées et les plus éclairées des démocraties dynamiques dans la région. Eh bien, nous allons avoir en fait un regard rétrospectif sur cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et surtout pour votre accueil habituel. Et mes salutations à l'ensemble de l'équipe ainsi qu'à votre invité.
Et l'autre, merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chamy, c'est un philosophe français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Nerostine. Bonjour à tous vos auditeurs. Et vraiment, tous mes remerciements aussi pour la présence de Maître Chamy d'Alsace.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet. Cette lettre qu'a envoyée l'honorable Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique, à l'adresse des jeunes d'Europe, c'était en novembre 2015, suite aux événements terroristes survenus en France. Monsieur Dortiguier, quelle est en fait la valeur, l'importance en fait de cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini, d'autant plus que dans sa lettre, le guide suprême de la révolution islamique avait fait en fait des précisions très très importantes sur en fait l'avenir du monde, sur l'avenir du monde de l'islam, avait mis en exergue de cette nécessité de bâtir, si vous voulez, l'avenir du monde, du monde de l'islam, du monde tout entier, avec une de juste conception et avec une vision profonde, M. Dortiguier.
Justement, si on peut résumer, disons en deux mots, l'importance de cette lettre, nous dirons que l'Ayatollah Khomeini, guide suprême, a voulu insister auprès des jeunes, auprès de la jeunesse, sur le fait qu'il fallait privilégier la conception des choses, le jugement, sur l'émotion ou la précipitation, comme justement nos moyens d'information, ou la propagande, voyez-vous, de tous ces milieux politiques, militaires et autres ici chez nous font pour pouvoir désorienter la jeunesse. Et qu'ils voulaient que la jeunesse voit plus loin, avec toujours en usant de la raison, sur, disons, le caractère. Il n'a pas parlé de religion islamique. Il a parlé de religion musulmane. Vous savez que le mot d'islamique est maintenant considéré presque comme péjoratif, comme islamiste, ne l'était pas du tout dans les siècles précédents. C'est une opération de propagande, voyez-vous, qui a fait que ces termes sont péjoratifs dans la presse d'aujourd'hui. Mais il a voulu, disons, que les jeunes gens regardent, la jeunesse regarde l'avenir et comprennent d'abord, justement, l'importance de la civilisation musulmane, la civilisation islamique, et que celle-ci, disons, était un fait. Un fait qui reposait sur l'existence d'État, l'existence de société, vous voyez, et que le terrorisme, auquel on donne le nom de terrorisme musulman, de terrorisme islamique, auquel on fait la chasse sous prétexte de parler ici contre je ne sais quelle forme de séparatisme et autres, sont des réalités qui sont des réalités en développement. Et ceci est vrai dans l'histoire, malheureusement on ne l'enseigne que très peu, on n'enseigne pas du tout ce qu'a été le prestige de l'Empire ottoman, ce qu'a été sa conception, ce qu'a été, disons, ce qu'ont été ses philosophes, ce qu'ont été des gens comme Avicenne, par exemple, comme je l'ai vu à Madan. Tout ceci a été mieux connu, je dois dire, dans notre génération, que ça ne l'est aujourd'hui. Et c'est très peu enseigné dans les classes, par exemple, dans les lycées, sous prétexte de ne pas parler de confession. Il ne s'agit pas de confession, il ne s'agit pas de profession de foi. Il s'agit de la réalité d'existence d'État avec lesquelles la jeunesse d'Occident doit coexister. Elle doit apprendre une coexistence, de même que l'Orient apprend à coexister avec l'Occident, comme il l'a fait du reste, disons périodiquement pendant des siècles. Or aujourd'hui, cette coexistence, sous des noms divers, est mise en cause par ceux qui veulent plonger le monde dans un chaos et faire, comme ils le disent dans une formule maçonnique connue, disons, faire sortir l'ordre d'un chaos, mais pas d'un chaos ancien, d'un chaos permanent, c'est-à-dire faire reposer une dictature mondiale, voyez-vous, qui efface les nations, qui efface les familles, qui efface les religions mêmes, où ce qu'on, pour moi, il n'existe qu'une seule religion, mais disons, les formes de confession doivent être effacées et que l'instinct religieux lui-même doit être brimé. Ceci a déjà été annoncé par des mises en garde de plusieurs de nos philosophes. Nous en avons, M. Heidegger, le disait. Et ceci, la jeunesse aujourd'hui l'éprouve. Et ce qu'a voulu, je terminerai sur ce point, ce sur quoi a insisté, qui fait la valeur de cette lettre, c'est, je le reprends, le fait que le guide suprême met en garde contre les réactions momentanées, voyez-vous, les réactions qui sont aveugles. Il veut que la jeunesse ouvre les yeux. Il a privilégié la jeunesse parce qu'il pense que celle-ci, disons, est moins empreinte de préjugés, moins alourdie par les préjugés, que ne le sont ceux qui ont connu parmi nous, dans plusieurs générations de Français, par exemple, la guerre d'Algérie, qui essaie de confondre, disons, des réalités, qui mettent sur le compte de l'islamisme ou de l'islam leurs propres méfaits, etc. Enfin, je n'insiste pas sur ces aspects sombres de notre période, mais il a bien insisté, Ayatollah Khamenei, sur le fait que c'est ce développement, cet éveil de l'islam, voyez-vous, qui se marque, est progressif, n'est-ce pas, qui est sensible, qui doit être arrêté par, qui est arrêté par la volonté justement de ces cercles terroristes qui sont répandus en Occident, qui manœuvrent l'opinion occidentale, voyez-vous, et qui, disons, terrorisent en réalité en premier lieu les Occidentaux en disant que la source de ce terrorisme, c'est la civilisation islamique. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un fantôme, une caricature dans la gueule. Qui est le fruit de leur laboratoire, qui justement, disons, qui a comme résultat, comme mauvais vaccin, empoisonne l'organisme, si je puis dire. Eh bien, on peut dire que là, la propagande occidentale, la propagande américaine, au fait de ces milieux, disons, à l'intérieur des États-Unis, comme il y en a à l'intérieur d'autres États, de tous les États, à mon avis, de ce qu'on appelle l'Occident et même de l'Orient, jusque dans l'Orient russe, vous avez des forces qui sont anti-religieuses, anti-musulmanes, anti-chrétiennes, voyez-vous, et qui veulent un abaissement de l'humanité et deux, une sorte de lutte des civilisations, mais qui ne soit pas momentanée, qui serait constante. Et c'est cela que justement Le guide suprême a voulu arrêter. Il a demandé, je termine dessus, il a demandé à la jeunesse d'aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de ne pas être sensible à l'agitation, de réfléchir au présent et à l'avenir.
Merci beaucoup. Maître Deschamy, votre lecture, s'il vous plaît.
Avant de parler de cette lecture, je me permettrai de vous avouer une petite confidence. Lors de la première lettre adressée par le guide suprême à l'attention notamment de la jeunesse française, mais en général à la jeunesse occidentale, j'avais pris ce texte qui m'a particulièrement touché personnellement et intimement, et j'ai voulu qu'il soit publié pour qu'il touche le maximum de personnes. Et je l'ai proposé, j'ai même proposé sa publication payante sur mes deniers personnels pour que chaque citoyen, notamment en France, puisse y avoir accès, le lise et puisse bien entendu le cas échéant le critiquer, mais dire ce qu'il en pense avec tout l'équilibre qui se dégage de ce texte-là. Nous n'avons pas trouvé le moindre organe de presse qui ait accepté de diffuser et de publier, même de contre-payer le prix de cette publication. Pas un seul organe n'a accepté de le faire. Et ça m'a particulièrement choqué, je me disais, c'est ce que je vais expliquer à l'un d'entre eux, mais pourquoi vous ne l'acceptez pas? Parce que vous prétendez qu'il faut qu'il y ait place à tous les discours, et pourquoi pas au discours qui se dégage de la République islamique d'Iran afin de mieux expliquer sa position, mais en même temps le regard spirituel de cette République, le regard intellectuel de cette République à travers la parole du guide suprême. La réponse était on comprend, mais on ne fait pas. Et cette phrase, ou en tout cas cette réponse, démontre qu'il y a un establishment qui empêche la propagation de ce discours, en tout cas la publication de ce discours, afin qu'il soit audible, compréhensible, et bien entendu touche les personnes auxquelles ce discours se destine. Pour revenir à ce discours par rapport à la jeunesse, en réalité, il y a, à mon sens, trois axes qui se dégagent de ce discours. Le premier, d'abord, c'est de faire parler la spiritualité de la République islamique d'Iran et plus particulièrement du guide suprême par rapport au message que l'on veut diffuser. C'est-à-dire, ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas un message de défiance, ce n'est pas un message de mise en cause de la culture qui règne en Occident, c'est tout simplement ouvrir les yeux à d'autres perspectives. Et c'est en cela le discours montre et justifie une tolérance qui vient de la République islamique d'Iran à destination du monde occidental et plus particulièrement à l'attention de la jeunesse occidentale. Le deuxième axe, c'est un appel à l'introspection, c'est-à-dire pour que cette jeunesse regarde ce que la société lui propose au prétexte d'une démocratie pour la pousser en quelque sorte à se mettre en difficulté par rapport aux autres sociétés. Et je citerai l'exemple le plus parlant, si j'ose dire, c'est la publication des caricatures sur le prophète Mahomet. On présente ça comme si c'était une leçon de démocratie, mais en réalité, ça génère de la haine des deux côtés, parce que à partir du moment où on vous dit ben, on le fait au nom de la démocratie, les autres n'ont pas le droit de réagir, alors qu'il suffisait de regarder qu'est-ce que c'est cette liberté que l'on donne au nom de cette démocratie. C'est la liberté d'insulter, c'est la liberté d'humilier, c'est la liberté d'agresser. Qu'est-ce que c'est que cette liberté que j'appellerais gratuite et qui n'appelle que la haine de l'autre côté, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette culture vient agresser d'autres cultures alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Et c'est en cela que cette liberté de croyance vient poser une difficulté par rapport à la croyance de l'autre. C'est-à-dire, je ne viens pas agresser votre démocratie, mais pourquoi votre démocratie vient agresser ma croyance, mon intimité et mon intime conviction? Et la troisième observation, le troisième axe, c'est le regard du monde occidental et particulièrement de la jeunesse occidentale par rapport à l'autre partie du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'Iran et les menaces qui pèsent sur cette république qui ne cherche à défier personne. Qu'est-ce qui se passe par rapport au Yémen, par rapport à la Syrie, à l'Irak, par rapport à l'Afghanistan et par rapport à l'ensemble du monde musulman? Est-ce que vous avez vraiment le vrai regard et la vraie compréhension par rapport à ce monde, et vous avez tout simplement ce que vos gouvernements vous apportent comme information? C'est-à-dire, à partir du moment où on vous dit c'est un monde qui a vocation à avoir la paix, qui ne cherche qu'à avoir la sécurité, qui ne cherche à avoir je dirais la meilleure relation avec l'autre partie du monde. Et qu'est-ce qu'on vient lui apporter? On vient lui apporter les menaces, la violence, la guerre, le terrorisme et tout ce que ça comporte comme destruction culturelle, patrimoniale, religieuse, sociétale et puis bien entendu civilisationnelle. C'est-à-dire à partir du moment où vous venez agresser ces pays-là, comme ce qui s'est passé notamment en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Syrie, c'est l'essence même de la civilisation de ces pays que l'on cherche à détruire. Et ces pays-là, vous les comprenez comment? Vous ne les comprenez pas parce que vous les regardez qu'à travers le prisme de vos dirigeants. Et moi, je vous demande tout simplement de vous ouvrir et de regarder l'équité et avec beaucoup d'intelligence et surtout avec beaucoup d'ouverture d'esprit ce qui s'y passe. Est-ce que, et c'est, je dirais, l'exemple le plus marquant, est-ce qu'un homme normal, doté d'un minimum de bienveillance, d'un minimum de, je dirais, d'intelligence, est-ce qu'il peut regarder ce qui se passe en Palestine en termes de massacre, en termes de destruction, en termes d'éviction de toute une population de son territoire pour en implanter une autre au prétexte que l'État d'Israël, que j'appelle moi l'antisioniste, a envie de s'installer sur votre territoire pour implanter des gens qui viennent de l'autre bout du monde? Qu'est-ce que c'est que cette équité? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est que cette égalité entre citoyens du monde? Alors que si vous avez un territoire et vous avez quelqu'un qui se trouve sur ce territoire-là, rien ne justifie que vous venez le chasser. Et regardez donc tout ce que le monde occidental impose au monde musulman et vous comprendrez ce qui s'y passe. Et c'est ce regard-là que l'on attend de vous, vous, la jeunesse occidentale, c'est-à-dire avoir un regard intelligent, un regard de critique par rapport aux décisions et qui sont prises en votre nom et surtout un regard de justice, mais la justice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas accepter l'injustice, ne pas accepter la destruction, ne pas accepter la terreur imposée à une population qui est, par définition, pacifique, qui n'a pas cherché à agresser quiconque et qu'on vient agresser sur son propre territoire au prétexte que l'on veut changer ce monde et le reconfigurer, le restructurer, comme l'a appelé à un moment donné Condoleezza Rice, la destruction créateur ou la démolition, moi j'appellerais créateur ou créatrice. Regardez voir ce que ça a apporté. Ça a apporté des malheurs, des drames et bien entendu une frustration de la part de cette population qui ne supporte plus ce qu'elle subit depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça que l'on attend de la jeunesse.
Maître André Chamy, vous avez un rendez-vous juridique. J'en vous retiens, plus. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission. Et je vous dis bonne journée et à très bientôt. Eh bien, Monsieur Dortiguet, vous venez d'entendre les explications de Maître Deschamy. Je viens de le dire tout à l'heure dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei a fait allusion au rôle joué par les États-Unis pour renforcer le groupe terroriste d'Al-Qaïda. Et dans une autre partie de sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei précise, avec beaucoup de regrets, je dois dire que ces groupes lâches, comme celui de Daesh sont les progénitures de ces liens avortés avec des cultures à importer de l'extérieur. Si le problème était vraiment de nature religieuse, de tels phénomènes auraient dû exister également à l'époque du colonialisme. Là, l'honorable Ayatollah Khamenei souligne que le groupe terroriste de Daesh n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Et l'honorable Ayatollah Khamenei fait allusion surtout à ce verset du Noble Coran qui considère que l'assassinat d'un seul être humain est comme, en fait, l'assassinat considéré comme l'assassinat de toute l'humanité, M. Dortiguet.
Oui, en effet, ce verset du Noble Coran dit que, si tu me permets de commenter, que quand on accepte, bien sûr, de détruire un être humain, on accepte de détruire le principe de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, en fait, à des instincts démoniaques. Et c'est un peu ce à quoi nous avons assisté depuis surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà autrefois, mais surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des guerres, disons, perpétuelle, a commencé par d'abord la guerre en Palestine en 1947-1949, et ensuite la guerre en 1956 contre l'Égypte, et puis ensuite avec toutes ces formes de coups d'État, vous voyez, qui marquaient la vie du Proche-Orient, et jusque bien sûr l'accroissement avec l'attaque de l'Irak, l'attaque de l'Afghanistan autrefois préparée par Brzezinski. Je soulignerai du reste, puisque nous avons cette liberté de parler ici entre nous, que l'exemple de l'Afghanistan est très important et très, disons, très significatif, car celui-ci a été abattu en deux coups de cognée, comme on dit chez les bûcherons. C'est-à-dire que la première fois, c'est un coup d'État communiste, si je puis dire, qui a renversé le régime traditionnel, voyez-vous, de la monarchie afghane, et c'est sur ce premier acte communiste qu'est venue ensuite une sorte de réaction, mais contrôlée de la part de ce qu'on appelle les talibans, avec Brzezinski et autres. C'est-à-dire que nous avons eu affaire, si je puis dire, comme à des produits qu'on mettrait dans un laboratoire. C'est-à-dire que ces États, on a monté une fraction de la population contre une autre. C'était des choses qui étaient faites de l'extérieur, contrôlées de l'extérieur, mais qui était méthodiquement suivie. C'est-à-dire, alors, on se demande quel est le but de tout cela. Le but de tout cela, c'est d'introduire une atmosphère de lutte civile permanente, un chaos permanent, à l'intérieur des États. Alors, on a essayé, on aurait pu essayer de heurter les chiites, par exemple, aux sunnites et autres, mais on essaie de diviser le plus possible la société et d'introduire, comme vous l'avez bien dit, en reprenant la lettre de l'Ayatollah Khamenei, d'introduire des éléments très artificiels qui n'ont pas même existé au moment de la colonisation. Nous n'avons jamais eu, par exemple, des mouvements comme Al-Qaïda ou autres, par exemple, qui, si on les prend à titre originel, par exemple, se lever contre la colonisation. Pas du tout. Au contraire, c'est cette colonisation qui a créé ces produits artificiels, et ces gens-là, d'ailleurs, ne savent qu'ils ne sont rien sans cet apport incessant qui leur est apporté. Ce sont des gens qui ont subi, qu'on appelle, des sortes de lavages de cerveau. On appelle ça les moyens MK Ultra ou autres, vous voyez. Et ils sont nourris, sans cesse nourris, j'entends, alimentés en propagande, sont alimentés en armes, etc. Ce sont des gens qui sont souvent déracinés de leur pays, voyez-vous.
Merci beaucoup.
Qui vivent en vase clos. Et c'est ceux-là qui sont des bombes vivantes, voyez-vous. Et on essaie d'intimider, non seulement d'écraser les peuples locaux, mais d'intimider en même temps les Occidentaux et la jeunesse occidentale en disant, voyez, ce danger incessant en Orient, etc., vous devez craindre ceci à l'intérieur de vos propres sociétés. C'est sur cette haine, sur cette crainte qu'une tyrannie espère se constituer durablement.
Merci beaucoup.
Je dirais, non seulement en Occident, mais dans le monde entier.
Merci infiniment, Monsieur Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. La France envisage des actes symboliques par rapport aux crimes commis à l'époque de la colonisation et de la guerre d'Algérie, mais annonce qu'il n'y aura ni repentance ni excuse, a annoncé ce mercredi l'Élysée dans un communiqué. Plus de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie 1954-1962, les relations entre Paris et Alger restent tendues en raison des crimes commis par la France pendant la colonisation et les 8 années de la guerre d'indépendance d'Algérie après 130 ans de colonisation française. Emmanuel Macron est le premier président de la République française né après la fin de la guerre d'Algérie. Il avait confié à l'historien Benjamin Estora de lui remettre un rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie, un rapport qui a été remis à l'Élysée ce mercredi. L'historien a précisé notamment de créer en France une commission mémoire et vérité chargée de proposer des initiatives communes entre la France et l'Algérie sur les questions de mémoire afin de réconcilier les deux rives de la Méditerranée, mais exclut la nécessité de toute excuse aux Algériens. Emmanuel Macron participera à 3 journées de commémoration dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie en 1962. L'Algérie a demandé à maintes reprises à Paris de présenter ses excuses aux Algériens pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis pendant la colonisation. Contrairement à ses prédécesseurs qui niaient totalement les crimes commis par la France en Algérie, Emmanuel Macron a reconnu en septembre 2018 que la France avait mis en place un système entraînant des actes de torture pendant la guerre d'Algérie, mais il s'est abstenu de présenter les excuses de la France. La France et l'Algérie poursuivent des négociations depuis 4 ans au sujet de 4 dossiers historiques sans aboutir à aucun résultat. Premièrement, l'Algérie exige notamment le partage des archives de la période coloniale 1830-1962, mais Paris a toujours rejeté cette demande d'Alger. Deuxièmement, l'Algérie exige le rapatriement des crânes de tous les résistants algériens conservés en France. Le troisième dossier porte sur la demande d'indemnisation pour les victimes des tests atomiques que la France a réalisés dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966, tandis que le dernier dossier porte sur le sort inconnu de 2200 résistants algériens portés disparus pendant la guerre de 1954-1962. Pendant cette guerre, 60 000 combattants et plus d'un million de civils algériens ont été tués par la France. Des dizaines de manifestants soudanais ont brûlé le drapeau du régime sioniste dimanche à Khartoum pour protester contre la décision des autorités de normaliser les relations avec Israël. Ils se sont rassemblés devant le siège du gouvernement, scandant des slogans anti-Israël et brandissant des pancartes avec les mentions « La normalisation est une trahison » ou « La normalisation est un crime ». Une autre bannière de dénoncer l'accord de normalisation comme un chantage américain. Les manifestants ont également porté des pancartes condamnant et rejetant l'accord d'Abraham qui disait « Mort aux accords d'Abraham ». Le 6 janvier, à l'occasion de la visite du secrétaire américain au Trésor, désormais bien sûr l'ancien secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, le Soudan a signé un accord de normalisation avec Israël et obtenu simultanément
une aide financière des États-Unis quelques semaines après le retrait de Khartoum de la liste américaine des États accusés de financer le terrorisme. L'accord de normalisation doit encore être ratifié par le Parlement avant d'entrer en application. Or, le Soudan ne dispose pas toujours d'un Parlement de transition. Le CDC Afrique lance un programme de précommande de vaccins contre le COVID-19 pour les 55 membres de l'Union africaine. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de CDC Afrique a annoncé le lancement d'un programme de précommande de vaccins contre le COVID-19 à destination de tous les membres de l'Union africaine, UA. Cette démarche de la plateforme africaine de fourniture médicale et au nom du CDC Afrique intervient une semaine après l'annonce du président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, également chef d'État de Sud-Africain, qui a affirmé le 14 janvier que l'UA avait acquis à ce jour 10 millions de doses de vaccins pour l'Afrique via son groupe de travail africain pour l'acquisition de vaccins. La plateforme africaine de fourniture médicale AMSEP au nom du CDC Afrique a lancé aujourd'hui un programme de précommande de vaccins contre le COVID-19 pour les membres de l'Union africaine selon un communiqué du CDC Afrique publié. C'était mardi. La Banque africaine d'export et import facilitera les paiements en offrant aux fabricants des garanties de préachat à hauteur de 2 milliards de dollars au nom des pays membres de l'Union africaine. Le gouvernement centrafricain a proclamé l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du territoire. Bangui entend ainsi faire face au groupe rebelle qualifié de terroriste par le président réélu Faustin Archange Touadéra. Les 6 groupes armés les plus puissants du pays se sont alliés au sein de la coalition des patriotes pour le changement. Entité qui contrôle les 2/3 de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans. Ces rebelles ont déterré la hache de guerre peu avant la présidentielle du 27 décembre et sont déjà arrivés aux portes de Bangui. Une menace qui pourrait durer, a déclaré jeudi l'émissaire des Nations Unies dans le pays. Mon cœur, Indéa, a réclamé dans la foulée au Conseil de sécurité une augmentation des substantielles du nombre de casques bleus déployés dans le pays. Une augmentation qui doit être d'une plus grande mobilité dans un pays très vaste. Tout en déplorant par ailleurs une grande désertion depuis décembre lors des forces de sécurité centrafricaines. La mission des Nations Unies dans le pays souhaiterait le renfort de 3000 casques bleus avec des moyens aériens importants, drones, hélicoptères d'attaque, capacité de franchissement ou encore force spéciale. Le plafond de casques bleus autorisé passerait ainsi à 14 650 militaires. Dans cette optique, son chef a aussi réclamé une prorogation de quelques mois du renfort intervenu en décembre de quelques de 300 militaires rwandais détachés de la mission de paix menée au Soudan du Sud. À l'origine, ce renfort plutôt rare à l'ONU était prévu pour 2 mois. Depuis la fin décembre, 7 casques bleus ont perdu la vie dans les affrontements. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.